ravi de vous retrouver dans ce vendredi soir. On va commencer par ce qui s'est passé la nuit dernière à Béziers, en pleine nuit d'Halloween. Cette école et ce collège incendiés pour l'instant, bon, par des inconnus. L'enquête est en cours. Le maire de Béziers, de la ville, qui est complètement écœuré. Les parents qui se disent, bah, qu'est-ce qu'on va faire des élèves dès lundi? Il y a quand même 300 élèves qui se retrouvent à la rue. Tout a brûlé. Il va sans doute falloir raser le collège pour mieux le reconstruire.
Je crois qu'on sera tous d'accord, effectivement, pour trouver ça consternant. C'est une évidence. Et puis, on a entendu, effectivement, l'émotion des parents d'élèves, des élèves qui venaient voir leur école, leur collège, et qui étaient complètement effondrés. Donc, tout ça, moi, je me sens complètement solidaire et je les comprends. Maintenant, je ne suis pas du tout solidaire et je n'irai pas dans le sens des Robert Ménard, dans le sens que vous avez, dans lequel vous êtes allé.
Quand il dit c'est des voyous,
Et puis, alors, on dit les jeunes et puis on fait des grandes généralités. Et puis, au bout du compte,
c'est une dizaine de voyous.
Mais une dizaine. Mais voilà, exactement. Sauf que depuis ce matin, on ne fait que des généralisations sur les jeunes des cités, sur les jeunes des quartiers populaires, où on nous explique que les jeunes sont en rupture avec la République, où ils ne pensent qu'à foutre le bordel, etc., etc. Eh bien, moi, je pense que non. Moi, dans ces quartiers-là, j'y vis et j'y travaille. Et je peux vous dire que ces jeunes des cités, des quartiers populaires, dans leur écrasante majorité, eh ben, ils ont les mêmes envies, ils ont les mêmes projets, ils ont les mêmes passions, ils ont les mêmes talents que tous les autres. Donc on va pas utiliser, si vous voulez, ce genre de fait pour faire des grandes conclusions. Moi, je pense que s'il y a un problème, il y a des problèmes dans ces quartiers populaires. C'est quoi les problèmes?
Et quand dix voyous font la terre sur un quartier, faut les arrêter.
Ces quartiers populaires sont des quartiers d'abord et avant tout ouvriers, où en fait ce sont des femmes et des hommes qui font les boulots les plus durs, les plus pénibles, les plus mal payés.
Mais ça justifie pas ça.
Ce sont des quartiers qui sont ravagés par la précarité, par le chômage, avec des problèmes de logement, avec des problèmes de transport.
Ça justifie pas de brûler une école.
Ça justifie pas du tout. Mais si vous voulez vous intéresser à ce qui se passe dans
attendez, j'ai fait que ça. J'étais maire d'une ville, 70% de logements sociaux, 40% de chômeurs dans certains quartiers.
C'est là que tu auras
besoin d'un avenir. S'y intéresse pas. C'est pas, il faut de l'or pour pouvoir travailler et construire.
Pour ceux qui appartiennent justement à ces classes populaires, qu'effectivement tous ces problèmes résolu. Et c'est comme ça que ces petites minorités, ces toutes petites minorités, eh bien, seront sous la pression des autres. C'est ça, je crois, la solution.
Merci.
Nous, 44 survivants du terrorisme, déclarons notre soutien et notre solidarité aux populations du nord de la Syrie. C'est par ces mots que débute l'appel du collectif des 44. Dans ce communiqué, les victimes des attentats du 13 novembre rappellent l'importance des Kurdes dans le combat mené contre Daesh et déplorent un manque de reconnaissance de la part des pays occidentaux.
D'abord, moi, ce qui m'a touché dans cette tribune, c'est pas seulement parce que l'axe de la tribune, c'est pas seulement ils gardent les combattants de Daesh. Donc l'axe de cette tribune, c'est de dire c'est une ignominie ce qui se passe là-bas. C'est révoltant, c'est indigne. Hein, et moi, je partage complètement leur révolte. Enfin voilà, c'est vraiment les grandes puissances. C'est évidemment les États-Unis, mais enfin la France, elle joue les seconds couteaux là, mais elle est dans je la mets dans le même lot parce qu'en fait finalement c'est la même politique. Hein, et bien ces grandes puissances, elles jouent avec les peuples, elles jouent avec la vie des peuples, voilà. Alors ils s'en servent, ils sont servis des Kurdes, ô combien. Hein, avec 11 000 morts quand même dans le combat effectivement contre Daesh. Et puis là maintenant que ce n'est plus leur intérêt, eh bien ils les sacrifient, ils les lâchent, voilà, au profit d'autres calculs sordides. C'est ça la réalité. Et moi ce qui est complètement cynique, c'est de voir qu'aujourd'hui, y compris les Américains, ont envoyé de nouvelles troupes. Oui. Pour protéger les champs de pétrole. Pour protéger les champs de pétrole. Alors, les Kurdes, ils peuvent être ratatinés, hein, d'un côté par Erdogan, de l'autre côté par Assad, hein, ou alors, le Rojava peut être effectivement balayé, hein, mais par contre, le pétrole, il faut que... Alors, voilà, c'est ça. C'est vraiment... Ça illustre complètement la politique des grandes puissances, de l'impérialisme, hein, où finalement le droit des peuples, le droit des femmes, le droit des minorités, ça ne compte pas. La réalité.
Malheureusement, le Kurdistan n'est pas une réalité géographique. C'est pas un État à l'ONU.
Oui, sauf que là, précisément, ils s'étaient tous engagés. Et effectivement, ils se sont appuyés sur eux. Ils étaient bien contents qu'ils soient sur le terrain pour faire le boulot qu'ils ne voulaient pas faire. Ouais. Hein, c'est ça la réalité. Et puis, c'est comme toujours, je dirais, parce que vous voyez, y compris dans la région. Parce que c'est une longue histoire, cette région. Hein. Les peuples ont toujours été comme ça, l'objet hein, de calculs sordides, de retournements d'alliances, etc. Un jour, on soutient Saddam Hussein, le lendemain, on le jette. Les Palestiniens, on les soutient et on les jette, etc. Et c'est toujours comme ça. Hein. Ils nous parlent de droit international. La réalité, c'est que c'est le droit des pétroliers, c'est l'influence hein, des plus riches, des grands trusts. Il n'y a que ça qui compte.
Ça, en l'occurrence, c'est plutôt Erdogan qui veut protéger sa frontière et pour qui les Kurdes sont des terroristes.
Hein, vous avez vu que c'est les États-Unis qui leur ont donné le feu vert. Oui. Les États-Unis ont donné le feu vert et la France, elle peut pousser des cris, des cris d'orfraie. Mais la réalité, c'est qu'elle ne fait rien et même pas capable d'arrêter les contrats d'armement qui sont en cours et qui continuent d'être livrés. Aujourd'hui, à Erdogan,
réaction.
La France, elle a surtout dit que les contrats d'armement en cours continuaient effectivement d'être effectifs. Donc, il y a beaucoup d'hypocrisie. Moi, je ne demande absolument pas à l'État français... Ne m'interrompez pas, s'il vous plaît, monsieur.
Alors, je précise votre pensée.
Non, je ne demande sûrement pas à l'État français d'intervenir parce que précisément, je n'ai aucune confiance. Rien de bon ne viendra, ni de l'État français, de la politique, et ni même de l'État américain, bien sûr. Et ce que je veux dire et redire, c'est que non, le problème ne vient pas de cette région. Ce n'est pas un problème du Moyen-Orient. Effectivement, c'est de la responsabilité des grandes puissances impérialistes, une responsabilité qui date, qui remonte à loin.
Ce n'est pas la faute aux Français, l'opposition entre les Turcs et les Kurdes.
Responsabilité écrasante.
On est coupable de tout, à
France
vos yeux.
Et de la Grande-Bretagne, y compris au lendemain de la Première Guerre mondiale. Mmh. Parce qu'au lendemain de la Première Guerre mondiale, y compris lors de la chute de cet empire ottoman, la région a été découpée par qui, dites-moi ? Par qui ? Par les grands. Et le traité de Sèvres, qu'est-ce qu'il avait promis aux Kurdes à cette époque ? Non, mais tout ça pour dire quoi ? Pour dire que certes, aujourd'hui, ce sont les États-Unis qui mènent la danse au niveau des puissances impérialistes. Mais il y a une époque, c'était la France, c'était la Grande-Bretagne qui l'a menée et qui sont aussi responsables. Et qui ont, oui, mais qui ont aussi posé des bombes à retardement. Et elle continue de le faire aujourd'hui. Je vais la refaire.
Un moment en Europe, on a décidé de se faire la guerre entre les Français et les Allemands.
Je vais la refaire, mais
il faudrait équilibrer les temps de parole.
Juste pour dire que Al-Qaïda, c'est quand même un produit de l'impérialisme américain. Je suis désolée, Oussama Ben Laden.
C'est le produit du wahhabisme qui a des siècles. Le virus wahhabite.
Aujourd'hui, on se les prend en pleine figure.
Est antérieur aux États-Unis d'Amérique. C'est pas vrai.
On revient, s'il vous plaît, en France, avec cette étude qui est sortie ce soir d'une étude britannique d'une revue scientifique extrêmement sérieuse qui s'appelle The Lancet, qui a été réalisée par des chercheurs et des médecins français qui ont interrogé tous les CHU après le phénomène gilet jaune et qui disent quoi ? Eh bien que le nombre de blessures oculaires suspectées d'avoir été causées par les lanceurs de balles de défense, les LBD, est en forte hausse depuis la crise des gilets jaunes. Il suffit de voir les chiffres. Jusqu'en 2017, c'est un ou deux cas. 2018, 25 cas et une quinzaine de cas depuis le début de l'année.
Première difficulté, c'est quand vous avez, pas des manifs de la CGT ou de la FNSEA, mais vous avez des manifs désorganisés, des gilets jaunes complètement infiltrés avec des gens qui sont à l'intérieur et qui font des actes de violence, effectivement, c'est beaucoup plus difficile parfois de distinguer, parfois impossible. Deuxièmement, il y a un élément technique sur le fait que les yeux ont été touchés. C'est que la balle de défense a une trajectoire courbe et non pas rectiligne comme une balle. Et moins la balle est puissante, plus la trajectoire est courbe. Excusez-moi de rentrer un peu dans la technique, mais ça explique que des policiers qui ont touché les yeux ne visaient pas les yeux, mais visaient le thorax. Et qu'à partir du moment où vous n'avez pas un... Excusez-moi si c'est un peu technique, mais à partir du moment où vous ne pouvez pas estimer, il faudrait sur ces armes des instruments, ça existe en optique, en électronique, qui permettent d'apprécier la distance et de mieux régler le tir. Et je terminerai sur un plan technique en disant qu'il faudrait que, comme les tasers, les LBD soient équipés de caméras. Et c'est-à-dire, comme on a multiplié les caméras piétons, mais qui ne sont pas forcément adaptées au maintien de l'ordre, et qui permettent de donner au juge, à ce moment-là, les éléments objectifs et qui permettent de vérifier que les armes ne soient pas utilisées à tort de façon inappropriée par les forces de l'ordre, permettent de répondre quand il y a des mises en cause inappropriées. Ça peut toujours arriver. Enfin, là, et apparemment, on ne serait pas dans un débat qui est complètement subjectif, mais aucun policier ne va blesser un manifestant pacifique délibérément.
Allez,
oui,
Nathalie
alors
Arthaud.
Moi, je ne suis pas du tout rassurée, et c'est même le contraire, après toutes vos explications techniques, hein, parce que ce qu'on voit, c'est que...
A priori, ne vous rassurons jamais.
Non, mais voilà, vous êtes en train de nous expliquer que, sans le faire exprès, effectivement, ils ont une arme hein, qui peut rendre, nous faire perdre un œil, enfin bon, très
c'est
dangereuse.
C'est mieux qu'une balle réelle.
Et finalement...
Ils auraient utilisé...
Ah, c'est mieux qu'une balle réelle.
Oui.
Ah oui. Alors
quand des policiers ont été lynchés, s'il n'y avait pas eu de LBD, ils auraient utilisé des armes létales.
Non,
et tant qu'on a les armes non létales, on ne les utilise pas. Et quand M. Poutine a donné des leçons aux Français, lui, il n'a pas le problème avec les LBD, parce que dans tel cas, il aurait utilisé des armes létales.
Heureusement qu'on n'emploie pas des armes létales.
Oui,
mais bien sûr, c'est pour ça que je défends les armes non létales. Mais les irresponsables qui voudraient qu'on enlève les armes non létales amèneraient des policiers qui sont en train de se faire lyncher à devoir être secourus. À ce moment-là, nous aurions eu des morts s'il n'y avait pas eu d'armes non létales.
Bon, allez,
c'est de là que ça vient.
Mais non, on a aussi un problème. Il y a des manifestations qui dévissent parce que, je parle notamment de la dernière marche pour le climat, les écologistes sont pacifiques.
Bien sûr.
Et les Black Blocs ont été refoulés vers la foule plutôt qu'isolés. Voilà. Et donc, il y a des techniques d'intervention dans les manifestations.
Comment vous isolez un Black Bloc,
s'il vous plaît,
il sait pas écrit
dessus. Des techniques d'intervention dans les manifestations qui attisent la tension. Tous les services d'ordre vous le diront. Le 1er mai aujourd'hui, quand vous avez les policiers qui décident de couper le cortège, eh bien, ça attise les tensions.
On ne peut pas isoler les Black Blocs. Vous étiez contre la loi qui aurait permis de empêcher d'accéder aux manifestations.
Elle était, oui, libertine.
Allez, Nathalie Arthaud, allons-y.
Moi, je voulais juste dire que des tirs de LBD, il y en a eu dans toutes les manifestations. Dans toutes les manifestations, effectivement, les manifestations très pacifistes d'écologistes, des manifestations... Le 1er mai, il y a eu des tirs de LBD aussi, vous savez, cette soirée-là à Nantes, de jeunes qui avaient la fête de la musique, qui avaient un peu prolongé la fête d'une heure, des tirs de LBD également. Voilà. Donc, c'est une arme qui est systématiquement utilisée, qui blesse, qui mutile, et il y a eu des demandes dès le départ du mouvement des Gilets jaunes pour dire qu'il ne faut plus utiliser les LBD. Bon, et puis le résultat, il est là. Parce qu'effectivement, il y a une stratégie on cogne et on tape dans le tas. C'était une façon aussi pour le gouvernement d'essayer de faire qu'il y ait de moins en moins de manifestants de samedi en samedi. Ça a été ça, la stratégie.
Mais qu'est-ce que vous répondez quand on vous dit à un policier, il ne va pas tirer sciemment dans les yeux, dans la tête?
Non, mais moi, ce n'est pas aux policiers que je dis. Effectivement, c'est le ministre de l'Intérieur qui a la responsabilité, effectivement, de dire ou pas si on utilise ce genre d'arme. Et vu les dégâts qu'elle cause, eh bien, il faut absolument arrêter d'utiliser ce genre d'arme.
Mais sans LBD, les policiers se feraient lyncher.
De LBD.
Interview d'Emmanuel Macron à Valeurs Actuelles. Vous l'avez tous lu, regardez la une de ce magazine, alors très conservateur, à la droite de la droite. Qu'est-ce qu'il dit, Emmanuel Macron? Il dit, par exemple, je ne cède rien sur l'asile, mais je le donne à qui de droit? Mon objectif est de sortir tous les gens qui n'ont rien à faire là à 100%. Et puis il dit aussi sur les visas de touristes, ce que je veux régler au plus vite, ce sont les gens qui viennent avec un visa touristique, qui restent 3 mois et se mettent à l'AME. Alors l'AME, c'est l'aide médicale d'État. Personne ne défendra ces cas. Ils sont indéfendables.
C'est comme exactement comme Sarkozy est allé sur le terrain du Front National, comme Valls est allé aussi sur le terrain du Front National. Là, oui, effectivement, le gouvernement, Emmanuel Macron, va sur le terrain du Front National. Il surfe sur une droitisation de la société, sur une peur, sur tout un contexte, un climat, etc. Il surfe dessus pour essayer, effectivement, d'asseoir un électorat plus large à droite, effectivement. Le problème, c'est qu'il l'alimente. Il alimente ce climat. Hein, et effectivement, ça c'est abject. Ça, c'est abject. Et moi, ce qui me révolte, c'est que finalement, on en revient toujours à la même... à la même situation, hein. C'est-à-dire que on est confronté à des urgences qui sont à bout de souffle. Le gouvernement impose des économies drastiques encore aux hôpitaux. Ça, c'est une réforme de contre les chômeurs qui est dramatique pour demain. C'est des salaires qui sont bloqués.
Sur l'immigration,
c'est...
Hein.
Oui, mais et de quoi nous parle-t-on? De l'immigration, hein, avec toujours sous-entendu, l'immigration, c'est un problème. L'immigration nous coûte cher. L'AME, ça nous coûte cher. Mais attendez, l'AME, c'est 1 milliard, oui, ça prend en charge 330 000 personnes, ça les soigne, hein, ça les soigne. C'est une mesure de santé publique, parce qu'on est content, effectivement, qu'il n'y ait pas d'épidémie, etc.
C'est ce que dit Agnès Buzyn, hein, d'ailleurs, la ministre de la Santé.
Dans un pays riche comme le nôtre, on va nous expliquer qu'on n'est pas en mesure de soigner ces hommes, ces femmes, ces enfants. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'ils sont nés dans un pays où ils ne peuvent pas se soigner ? Parce qu'ils n'ont pas d'argent ? Hein, mais alors, les étrangers qui ont un portefeuille bien garni peuvent venir se faire soigner en France. Eux, il n'y a pas de problème, ils peuvent venir. Donc moi, ce n'est pas dans ce pays-là que j'ai envie de vivre. Ce n'est pas dans un pays qui, justement, nous explique qu'on ne peut pas soigner les gens. Donc, voilà.
On a compris.
Mais voilà, l'AME, c'était le terrain du Front National. C'était le terrain du Front National pendant des années et des années. Et là, le gouvernement y va, et il y va précisément pour nous expliquer les étrangers, l'immigré, il nous coûte cher. Alors même que dans les hôpitaux, vous aurez remarqué les hôpitaux, regardez qui
vous
sont les médecins.
Vous caricaturez un peu. Là,
regardez qui sont les médecins. Heureusement qu'il y a des médecins étrangers dans les hôpitaux.
Et qui sont acceptés en France en difficulté.
Je crois que les
hôpitaux... Non mais attendez,
François Grosdidier, allez-y.